Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine avec Olivier. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Vous le savez, jusqu'au 11 juillet, les horaires de notre libre antenne vont être souvent bouleversés pour cause d'Euro de football. Il y a donc de nombreux soirs comme tout ce week-end où nous ne retrouverons qu'à 23h30. Je vais donc faire des intros plus courtes ces soirs-là et vous proposer simplement des livres qui croisent mon chemin en ce moment et qui pourraient vous plaire. Étant donné qu'il fait très beau depuis quelques jours, un livre a retenu mon attention cette semaine, c'est celui du sophrologue, coach et conférencier Alain Lancelot, qui nous apprend à reprendre contact avec la nature pour mieux reprendre contact avec nous-mêmes. Son livre s'appelle « Chemin de reconnexion ». Il est très concret puisque vous y trouverez 50 exercices à faire en pleine nature. Alain Lancelot, « Chemin de reconnexion », je vous mets les détails sur ma page Facebook « Sabine Marin officielle ». En attendant, c'est parti pour une nouvelle soirée de confidence. Appelez-moi au 3921. Fanny et Théo sont là, ils sont prêts à vous accueillir. 3921 donc pour le téléphone et puis pour participer par SMS, comme vous êtes nombreux à le faire chaque soir. Vous tapez le 739-21 suivi du mot nuit et de votre message. C'est Ilkay qui réalise notre émission, qui commence donc maintenant.
Venez vous confier à Sabine Marin sur Europe 1.
Et mon premier appel ce soir, c'est l'appel de Vittel. Bonsoir à vous, Vittel.
Oui, bonjour.
C'est un pseudo ou c'est un prénom original?
Non, c'est mon prénom, Vittel, ouais, je m'appelle.
Ah, Vittel.
Oui.
Ah, d'accord, avec, pardon.
C'est comme la carte sans le quoi, en fait. Quoi.
D'accord.
Mais bon, c'est de manière simple qu'on le dit. Quoi.
D'accord. Mais écoutez, soyez le bienvenu, Vittel.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous amène ce soir?
Ben, c'est parce que je suis beaucoup seul, quoi, en fait, quoi.
Ah.
Ouais. Ben, j'ai quelques amis, mais c'est pas toujours évident, quoi. Et puis, je suis quelqu'un qui a pas de relation, qu'on va dire, quoi.
Quel âge avez-vous?
Moi, j'ai 40 ans.
Et qu'est-ce que vous faites comme travail?
Je suis en fait en reconversion professionnelle, en fait, et parce que j'étais boulanger, je suis resté longtemps à l'étranger, quoi, au Québec.
Ah.
Pendant 12 ans, j'ai passé, quoi, et après je suis revenu, je suis revenu en 2018. Moi, en fait, j'ai perdu mes parents en 2008, et puis là, je suis dans la maison de mes parents, en fait, si vous voulez, quoi.
Et qu'est-ce qui fait que vous êtes parti à l'autre bout du monde comme ça?
Bah, pour le travail, parce que j'avais 26 ans, et puis... Mes parents, ils m'ont dit « va-t'en, quoi, quoi ». Ils m'ont dit « profites-en, quoi ». Et puis j'avais un peu de famille là-bas, quoi.
D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est aussi pour ça? Peut-être que vous n'avez pas pu vous faire des amis puisque vous étiez si loin. C'est compliqué quand on s'expatrie comme ça?
Non, ça a toujours été... J'ai jamais eu beaucoup d'amis. Bon, quelques-uns, mais pas énormément, quoi.
Puis boulanger, en plus, j'imagine qu'avec les horaires décalés, ça n'aide pas.
Ah oui, c'est ça. Et puis c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. Là, je sais pas si vous connaissez le projet pro, ça s'appelle, mais c'était avant Cap Avenir ou un truc comme ça, quoi, ça s'appelait à l'époque. Ça se passe dans la CCI, c'est pour redéfinir notre projet, quoi. Ça va dans tous les âges. C'est assez intéressant parce que ça peut faire créer des liens aussi, quoi, avec certaines personnes, mais bon, après, c'est limité, qu'on va dire. Quoi.
Mais votre projet à vous, c'est quoi?
Mon projet, ça serait pour aller soit fait pour conduire des bus ou faire des espaces verts.
Ah oui, donc rien à voir, deux axes différents, là.
C'est ça.
Et qu'est-ce qui vous attire dans ces deux métiers-là?
Ben, j'aime bien le fait de pouvoir bouger, quoi. De pouvoir voyager un peu, que ça peut se faire partout, quoi, un peu, quoi.
Et là, vous êtes dans quelle région pour l'instant?
Pour l'instant, je suis dans le sud de la France, à côté de Perpignan.
D'accord. Et vous êtes revenu donc dans la maison de vos parents?
Voilà.
Et comment est-ce que...
Au premier confinement, ça s'était pas forcément bien passé avec ma sœur, et parce que je n'étais pas forcément du bien et tout ça. Et puis après, on a décidé de la vendre, quoi, en fait, la maison. Mais bon, ça, ça fait partie des aléas de la vie. C'est parce que je m'étais pas assez du mien dans la maison, quoi.
Mais ça veut dire quoi, que pour l'instant, vous y habitez tous les deux?
Non, tout seul.
Ah,
ma sœur, elle est à Paris, quoi.
Ce que vous me dites pendant le premier confinement, ça s'est pas bien passé avec elle.
Ouais, c'est ça. Mais parce qu'elle y était, elle était descendue un petit peu.
Ah, elle était venue se confiner là-bas. D'accord.
Un petit peu, oui. Mmh. Ouais, c'est ça.
Et donc là, la maison est en vente.
En vente, c'est pas affiché nulle part, mais elle est. Ouais, on a décidé la vente, quoi. Parce qu'il y a encore beaucoup d'objets, parce que mon père récupérait beaucoup d'objets et tout ça, quoi. Et puis c'était. C'est faut encore enlever des objets et puis mon père il récupérait beaucoup de choses quoi lui.
Mais ça veut dire que pour vous c'est vraiment un virage à 180 degrés, c'est-à-dire qu'entre la maison et le travail tout change.
Eh oui. Bah oui, mais bon après moi j'aime bien bouger de toute façon.
Ouais, c'est
après,
ce que j'allais vous dire, c'est comme un nouveau départ.
Oui. Oui.
Alors, qu'est-ce qui fait, d'après vous, que vous n'arrivez pas à rencontrer des gens? Est-ce que vous êtes timide?
Timide un petit peu, ouais. Je vais pas forcément ouais, je vais un petit peu vers les gens, mais ça dépend. Ça dépend des fois, quoi. C'est pas, je sais pas si c'est de la timidité ou pas, mais c'est sûr. Je trouve que l'être humain il est pas fait pour rester seul, quoi.
Les quelques copains que vous les avez connus comment, par exemple?
En fait, c'est un voisin. J'ai un voisin qui tient un magasin de brocante. Lui, il a 60 ans maintenant. Et j'allais l'aider à sa brocante. J'allais livrer des meubles avec lui. J'allais faire des marchés j'allais faire des marchés avec des brocanteurs et tout ça avec lui. Mmh. Et voilà. Et puis là, je l'aide encore de temps en temps, quoi. Mais à la brocante, à son terrain et tout ça, quoi. Il y a un terrain avec sa compagne. Et puis je vais les aider, quoi. Et puis c'est à peu près, mais c'est le contact. Après, sinon, moi, je vais au cinéma, des fois.
C'est pas là qu'on rencontre du monde.
Au cinéma?
Ben oui.
Bon, je sais pas, je suis allé pour faire une activité. Après, c'était pour... Sinon, j'aime bien faire du vélo aussi, quoi. J'aime bien faire du vélo.
Oui, mais tout ce que vous me dites là, ce sont des activités qu'on fait tout seul. C'est compliqué d'aller... Bah oui, en vélo, c'est compliqué d'aller parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, de faire des connaissances. Au cinéma, c'est pareil. Enfin, c'est ouais. Plus difficile. À moins d'être un baratineur et de parler aux femmes qu'on ne connaît pas. Mais ce ne sont pas des activités qui vous permettent de rencontrer du monde. C'est ça qui m'ennuie dans ce que vous me racontez.
Ok.
Ça serait peut-être plus sympa. Alors, est-ce que dans votre projet de reconversion, vous souhaitez rester dans le même coin?
Pas forcément.
Ah oui, là aussi, c'est ça.
Ben après peut-être le temps de faire le comment ça s'appelle la formation, le CAP ou un truc comme ça, quoi. Je peux y rester, quoi, le temps de faire après j'aimerais bien changer de région, quoi.
Parce que si vous faites plein d'efforts pour vous faire des copains dans cette région-là et que vous partez, ça va recommencer après de la même manière. En même temps, ça peut vous apprendre aussi à aller plus vers les autres. Parce que qu'est-ce que vous faites concrètement pour rencontrer du monde? Vous allez me répondre rien, j'imagine.
Bah ouais, voilà, c'est ça. Je fais pas grand chose, quoi.
Et oui, alors qu'est-ce
que... Je parle avec une personne à la formation, et puis après avec quelques personnes, quoi. Mais voilà, quoi. Après, ouais, c'est sûr, j'y mets pas forcément ligne. Hein, c'est vrai que vous m'ouvrez un peu les yeux aussi.
Bah, ça me paraît assez logique. D'après vous, Vital, quand on veut que quelque chose change, il faut changer quelque chose, non?
Oui.
Et voilà. Donc, si vous constatez que la manière dont vous vous y prenez ne vous convient pas parce que c'est pas très ouvert sur les autres, peut-être il faut vous forcer un petit peu, aller parler à des gens, faire des activités où on est ensemble. Je sais pas lesquelles. Il y a, j'en sais rien. Je dis n'importe quoi, mais ça peut être des cours de ce que vous voulez, que ce soit. Il y a des sports collectifs, des activités comme de la peinture, des activités comme du théâtre, des soirées jeux, des choses où on partage pour rencontrer du monde.
Okay.
C'est quand même plus sympa que d'aller faire du vélo tout seul, quoi, si on veut parler un petit peu à quelqu'un. Oui.
Ou en groupe, hein. faire du vélo en groupe, sinon, non?
Ou alors, oui, vous mettre dans... Effectivement, il y a des gens qui marchent aussi ensemble, des marcheurs.
J'aimerais bien, ouais.
Bah, ça se trouve, hein.
Ouais.
Ça se trouve. Maintenant, c'est pas compliqué de trouver des assos, des clubs, des maisons, des jeunes, des choses comme ça qui organisent tout ça. Mais il faut bien vous dire que ça tombera pas tout seul.
Oui, ça tombera pas tout cuit.
On vient rarement nous chercher pour dire « Dis donc, je voudrais être ton ami ». C'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment en multipliant les activités, les contacts et en osant. Qu'est-ce que vous craignez si ça marche pas, au pire? Vous en foutez?
Ben non, quoi.
Voilà. Ben voilà. Quand j'étais petite, on me disait, n'aie pas peur de demander, on te dira, on peut pas te dire plus que non. Ben, c'est un peu ça. Oui. Au pire, si ça colle pas avec quelqu'un avec qui vous avez essayé de brancher, ben, c'est pas grave, ça marche pas, ça marche pas.
C'est vrai.
Mais au moins, vous apprenez à vous ouvrir. Et dites-moi, sur le plan sentimental, c'est le même désert ?
Oui. Mais en fait, j'avais au Québec, quand j'étais au Québec, j'avais eu des copines. Mais quand ma deuxième copine, quand s'était séparé, j'étais rentré entre autres aussi pour ça en France parce que je vivais assez mal la séparation. Quoi.
Qui a décidé cette séparation ?
C'était un peu nous deux, mais après j'ai digéré avec le temps, quoi, mais ça m'a mis un bon moment quand même. Quoi.
Et là c'est aussi, ça, quoi. Est-ce que vous seriez prêt à rencontrer quelqu'un ? Est-ce que vous auriez envie de ça maintenant ?
Bah oui, parce que je trouve que l'être humain, il n'est pas fait pour vivre tout seul, l'être humain, il est fait pour... Il est fait pour être avec quelqu'un d'autre. Mmh.
Et je pense que ce qu'il faudrait, c'est reprendre un peu confiance en vous, Vital.
C'est ça.
Redresser la tête, redresser les épaules et vous dire, allez, j'y vais. On verra bien ce qui se passe, mais j'y vais.
C'est sûr qu'après, c'est un peu compliqué parce que j'ai le sommeil beaucoup, beaucoup perturbé. Quoi.
À cause de quoi ?
Bon, je pense que ça fait longtemps, quoi, depuis que je suis tout petit, quoi. Quand je criais, je parlais, quoi, la nuit, quoi, et puis jamais résolu spécialement le problème. Quand j'étais avec une de mes copines au Québec, à un moment, pas la dernière, mais l'autre avant, des fois, la nuit, je tirais la couette et puis je grognais, quoi, quand elle retirait, quoi. Donc, c'est pas très agréable, quoi. À part faire chambre séparée, c'est...
Oui, c'est un problème qui se surmonte quand même, ça. C'est pas complètement rédhibitoire. C'est vrai que c'est plus compliqué, mais ça surmonte. Il y a David qui envoie un petit message. Il a raison, effectivement. Tout ce qui est bénévolat permet aussi de rencontrer beaucoup de monde. Si vous avez envie de filer un petit coup de main dans des assos...
Oui, j'aime bien rendre des services, rendre des coups de main aux gens, quoi.
Ben oui, ça m'étonne pas quand
j'aime
je vous entends.
J'aime bien aider les gens, quoi.
Ben justement, cherchez un peu dans votre coin s'il y a des associations qui ont besoin d'un coup de main de temps en temps. C'est un très bon moyen de se faire des relations, des copains. Et peut-être même une rencontre amoureuse, d'ailleurs.
Mm-hmm. C'est vrai.
Et vous risquez de trouver des gens qui sont sur la même...
Longueur d'onde.
Je cherchais le mot. La même longueur d'onde que vous, exactement. Avec les mêmes valeurs, vous voyez.
Oui.
Mm-hmm. Et oui.
Ben oui.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes un petit peu en retrait comme ça, que vous avez ce manque de confiance en vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Mon enfance, c'était pas forcément toujours évident, quoi. J'ai beaucoup beaucoup doublé à l'école primaire, quoi. Après, ma mère, elle s'est beaucoup battue pour me remettre, me faire réintégrer le système scolaire normal, quoi. Que j'ai réussi à faire au collège, quoi. Mmh. Et puis après, je suis allé dans un lycée agricole pendant un an, mais ça ne s'est pas forcément bien passé en internat, parce que ce n'était pas l'idéal dans l'internat, quoi. On va dire Mais dans la chambre, moi, la nuit, c'était... Je faisais un peu vivre l'enfer, entre guillemets, l'enfer à ceux qui partageaient la chambre avec moi, parce que je criais, je parlais la nuit, quoi. C'est donc c'était un peu chaud, quoi, on va dire, quoi.
Et comment ça se fait que tout petit, déjà, ça marchait pas à l'école ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé de particulier ?
Je sais que tout petit, j'avais fait des... Tout bébé, j'avais fait des arrêts respiratoires, quoi. Par des bronchiolites, quoi.
Oui.
Après, c'était... Je ne sais pas exactement, je ne pourrais pas... Après, il y avait ça, quoi. En fait, ça veut dire probablement, tu sais, que mon cerveau, il a manqué un peu d'oxygène, tu sais.
D'accord.
Peut-être ça peut avoir eu des conséquences après, quoi.
Et vous n'aimiez pas l'école ? Vous aimiez l'école ou vous n'aimiez pas du tout ?
Bon, ouais, j'aimais bien y aller,
vous
mais...
Vous aimiez bien quand même,
ouais.
Mais vous l'aimiez, mais elle ne vous l'a pas rendu, si je comprends bien.
Voilà, c'est ça. Mais après, plus tard, ça allait un peu mieux, quoi. Mais c'est... après, je révisais pas forcément les cours et tout ça, quoi. Donc, c'était pas... Mais voilà, quoi. Oui, au collège, j'avais eu quelqu'un que j'avais rencontré, ben, entre guillemets, parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui faisait de la... qui faisait les mots d'absence et tout ça, quoi.
Mmh.
Ouais, c'est, mais bon, j'étais un peu plus, mais bon, après, ça reste de, mais bon, c'était dans la vie scolaire qu'elle travaillait, puis j'aimais bien, on allait marcher ensemble, quoi, en fait, quoi.
C'était platonique.
Et puis, on se donnait la main, elle me donnait la main, quoi. Elle voulait, et puis, c'était agréable, quoi.
Mmh.
Il y avait une belle entente, quoi, entre nous, quoi, mais c'est rien passé de plus, tu sais, mais bon, après, tu me diras peut-être. Des trucs, les gens qui travaillent au sein d'un établissement, ils n'ont pas à faire ça avec des jeunes, quoi.
Ben normalement, non, bon, ça c'est sûr.
Mais bon, parce que j'avais 17 ans, 18 ans, mais bon, après, c'est
il ne s'est rien voilà. passé, de toute façon.
Non, bon. Il ne s'est rien passé.
L'honneur est sauf.
On avait marché. Voilà. Bon, on sentait qu'il y avait des trucs. À un moment, une fois, elle avait voulu m'inviter à boire un café, un moment, ou un bar, dans un. Mais ça fait longtemps, c'était en 98 hein, que ça remonte, quoi. Mais je lui avais dit non merci, j'ai pas soif, quoi. Tu sais, tu vois là, quoi. Au moins.
Vital, on marque une courte pause, si vous permettez, et je vous récupère tout de suite.
Oui.
Merci.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Vital, êtes-vous là?
Oui.
Oui. Dites-moi, vous m'avez dit que vos parents sont décédés, que vous avez une sœur. Est-ce que c'est votre seule sœur?
J'ai une autre sœur, mais elle ne me parle plus.
Ah, c'est ce que je vais vous demander.
Mon autre sœur est du côté de ma mère. Quoi. Elles sont beaucoup plus. Mon autre sœur est beaucoup plus âgée que moi. Quoi.
Pourquoi est-ce qu'elle ne vous parle plus?
Parce que c'était compliqué avec sa fille. Une fois, sa fille était venue chez moi, chez nous, dans la maison dans le sud. Quoi. Et ça ne s'était pas très bien passé. Elle était venue avec son copain, quoi. Ça s'était pas très bien passé, et puis ce temps-là, après, tout ça, quoi, elle me parle plus, quoi. En gros, c'est pour, simple, pour faire simple, quoi, tu sais.
Mmh. Et l'autre, celle qui vous parle, est-ce qu'elle s'occupe de vous un petit peu?
Un petit peu, ouais, mais maintenant, elle a un nouveau compagnon. Mais ouais, on était proches beaucoup. Mais après au premier confinement, ça s'était pas forcément bien passé quand on était ensemble.
Ça fait un an maintenant.
Ouais, c'est sûr que. Mais je peux me confier à elle, il n'y a pas de problème, quoi.
Bon, c'est déjà
mais
ça.
On a 3 ans de différence, quoi, tu sais.
Ben, c'est pas grand-chose, 3 ans.
Mon autre sœur, elle est de 67. Hein. On a beaucoup plus de. On a 13 ans de différence, genre. C'est parce qu'en fait, j'avais des parents... mon père, il était âgé.
C'est ce que j'étais en train de me dire. Ils sont décédés à quel âge, vos parents? Parce que vous êtes jeune, quand même.
J'ai 40 ans.
Oh,
ma
oui.
mère, elle
a une tumeur au...
Ma mère, elle a une tumeur au cerveau à 60 ans. Et puis, ça a mis un an, quoi.
Mm-hmm.
Mes sœurs, elles ont monté à Paris. Et puis, mais ça a mis un an. Elle était en hôpital. C'était une tumeur infiltrante.
Non, la pauvre.
Et puis mon père, il était plus âgé, il avait 84 ans.
Il était plus âgé qu'elle, ouais.
Ouais. Ben, il était hollandais, mon père.
Oui, et alors?
Bon, je ne sais
pas.
Il avait vécu la guerre, donc ça a laissé des traumatismes, ouais. Et tout ça. Mmh. Et puis, il avait fait aussi la résistance en Hollande, quoi. C'était pas forcément évident, quoi. Et puis pour l'éducation des enfants, après, ça laisse aussi des marques et tout ça, quoi. C'est pas forcément toujours facile, quoi.
Donc entre vos ennuis de santé et puis des parents qui ont été malades et qui sont morts relativement... Une maman qui est morte relativement jeune, c'est vrai que ça a été... La vie vous a pas fait de cadeau, quoi.
Bon, c'est pas que ça me... Ouais, c'est... Ah, mais après, il faut que je me prenne en main aussi, quoi. C'est des fois j'ai de la misère avec les papiers et tout ça, je les fais pas forcément je préfère aller me faire aider ou des trucs comme ça, quoi.
Mais vous me parliez tout à l'heure, on va se parler en toute franchise, hein, Vital, vous me parliez de manque d'oxygène dans le cerveau, ça veut dire est-ce qu'il y a une séquelle quelque part, est-ce que vous avez un problème?
Non, je marche, je respire, En principe, non. Peut-être une petite lenteur, mais pas méchamment, non.
D'accord, donc tout va bien.
Oui.
Bon, d'accord.
Ça va bien. Des fois, c'est vu que... Voilà, c'est ça, quoi. C'est peut-être un petit peu plus lent, quoi. Mais à part ça...
J'allais vous dire, et alors, chacun a le droit d'être différent. Hein.
Eh oui. C'est ça que...
Vous êtes comme vous êtes, et vous avez aussi tout à fait le droit de vous autoriser à être heureux, et avec une femme, et avec des amis.
Bah oui.
Heureusement que chacun est différent sur cette terre. Ce serait tellement ennuyant si on était tous pareils.
Ça serait triste.
Eh oui. Mais je vous ai quand même bien entendu dire, il faut que je me prenne en main.
Oui.
Non, c'est pas moi qui l'ai dit.
Oui, c'est vrai.
Je vous ai un peu poussé, mais c'est pas moi qui l'ai dit.
Oui.
Et donc, ça veut dire quoi? Il faut que je me prenne en main. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement?
Mettons, je voulais dire, je me prenne en main pour l'administration ou des trucs comme ça. Moi, je préfère, je choisis des fois les trucs les plus simples, tu sais, me faire aider ou des trucs comme ça, tu sais, avec des gens.
Oui, mais ça, bon, c'est pas le sujet du jour. Vous faire aider pour la paperasse, pourquoi pas. Mais pour là, on parlait de rencontres amicales et amoureuses.
Oui, c'est vrai. C'est aller au-devant d'eux, quoi. C'est ça, quoi. Comment je le fasse ou...
Du bénévolat.
C'est ça.
Ou des activités sportives en groupe, pas tout seul dans votre coin.
Ben oui.
Parce qu'aller faire du vélo pour parler avec un écureuil, ça ne va pas vous apporter grand monde dans votre vie.
Non. À part libérer la tête et tout ça, et aller laisser mes pensées divaguer partout, quoi, ça ne fait pas plus que...
Ça dépend de l'objectif. Si c'est juste de faire du sport, c'est très bien. Si c'est pour rencontrer des gens, c'est vrai que c'est quand même mieux de le faire dans des clubs ou dans des groupes où on va marcher ensemble, où on va faire du vélo ensemble, où on va... Il y a même des endroits où on va visiter des monuments ensemble, ça dépend de vos centres d'intérêt. Il y a plein de choses qu'on peut faire en groupe.
Oui.
Et qui permettent petit à petit de s'ouvrir à l'autre et de multiplier les chances de se refaire des rencontres, que ce soit amicales ou amoureuses.
Ben oui, je comprends.
Mais oui. Il y a plusieurs messages qui sont arrivés pour vous, Vital, et qui vous souhaitent vraiment bonne chance pour trouver ce que vous cherchez.
Ben, c'est gentil.
Des gens qui vous trouvent touchant, et moi aussi je vous trouve très touchant.
Ben, merci.
Et déjà, vous voyez, le fait que vous ayez appelé ce soir, je pense que c'est déjà un premier pas.
Ben, c'est...
C'est déjà une envie de sortir un peu de votre bulle.
Je sais que j'avais déjà appelé à la radio l'été dernier. Mais c'était plus, c'est pas appelé, mais c'était par SMS, quoi, en fait. Mais quand il y avait des gens qui parlaient, quoi, en fait, quoi, pour les aider, pour tendre mon oreille, parce que j'aime bien des fois tendre mon oreille pour parler avec eux, tu sais, pour s'ils ont besoin des gens ou des trucs comme ça, quoi. Mmh. Et puis, voilà, quoi. J'avais échangé avec une personne, mais elle est décédée, quoi. Ah. Elle avait 51 ans, quoi, puis mais elle est décédée.
Vous êtes un vrai gentil, Vital.
Ben, je vois pas pourquoi je serais méchant, quoi. C'est pas le but non plus d'être méchant dans la vie, quoi.
Oui, mais on sent que vous avez une personnalité absolument touchante et adorable. Qu'est-ce que vous aimez, on ne sait jamais, s'il y a des gens dans votre région qui ont envie de vous rencontrer, qu'est-ce que vous aimez faire comme activité à part le vélo?
J'aime bien voyager, j'aime bien le cinéma, comme je vous ai dit.
Ouais.
J'aime bien aider les gens. J'aime bien faire du jardinage un peu, j'aime bien lire moyennement, mais je peux lire.
Oui, mais ça, ouais, lire pour rencontrer quelqu'un, ça ne va pas être facile. Si, il y a des clubs de lecture, vous me direz, mais enfin bon, ça ne me paraît pas...
C'est ça.
Oui.
C'est ça. Qu'est-ce que j'aime bien faire? J'aime bien... c'est ça, quoi, je vous ai dit, en gros. Ouais, j'aime bien m'occuper de mon chat.
M'occuper de quoi, pardon?
De mon chat.
Votre chat.
Parce que j'ai ramené mon chat du Québec.
Ah.
Oui, il est dégriffé aux quatre pattes.
Sacré voyage.
Oui. Il a 12 ans maintenant, mais c'était un chat que j'avais avec une copine, mais c'est moi qui l'ai gardé.
Donc, ça veut dire aussi que vous aimez les animaux.
Oui, j'aime bien les animaux.
Bon, tout ça, ça peut ouvrir des portes.
Ben oui.
Écoutez, on sait jamais, Vital. Si ce soir, il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans le sud-est, si j'ai bien compris.
Oui, à côté de Perpignan, en fait. Après, moi, je suis mobile au tir, mais c'est...
Oui, mais pour se faire des amis, c'est quand même sympa de ne pas trop trop loin, quoi.
Oui, ça, c'est sûr.
Donc, si des gens ont envie de vous rencontrer, nous laissent des messages, je vous promets qu'on fera suivre.
Ben, c'est gentil.
Et j'espère que vous allez redresser les épaules, prendre confiance en vous et vraiment aller vers les autres et vous ouvrir. Et puis, dans quelques temps comme ça, vous me rappellerez pour me raconter toutes les belles histoires qui vous sont arrivées.
Ben oui. Hein? Il y a aussi des fois des peurs ou des trucs comme ça, tu sais, de certains trucs depuis que je suis tout petit, quoi, ou des phobies, quoi. Mm-hmm. C'est comme j'ai peur, tu vas me dire, c'est bizarre, mais j'ai peur ou je suis mal à l'aise avec les pigeons, mettons, quoi.
Avec les quoi ?
Avec les pigeons.
Ah, les pigeons, oui. Il y a beaucoup de gens qui sont effrayés par les oiseaux, notamment les pigeons. Oui.
Ouais,
là, je ne vais pas avoir le temps de repartir sur un autre sujet. Ouais. Vital, il y a les informations qui arrivent.
Ok.
Je croise les doigts pour que tout ça s'ouvre, aille vers du mieux et que vous ayez l'occasion de rencontrer plein de gens et que vous puissiez retrouver un peu plaisir à partager.
Ben oui.
Est-ce que je peux me permettre de vous embrasser ?
Ben oui.
Alors je le fais. Au revoir Vital, merci de votre
temps. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Et j'accueille maintenant Nicolas sur notre libre antenne. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Ben, merci de votre accueil. Voilà, moi je suis l'émission depuis plus de 15 ans. Hein. J'ai commencé avec l'ancienne collègue
Caroline.
Sur Caroline, voilà. Ça fait 15 ans que j'écoute. Et ça m'aide franchement à m'endormir le soir. C'est un très bon moyen d'enlever mes somnifères que j'ai eu l'occasion de prendre suite à divers soucis de santé que j'ai eu. Je vais vous expliquer, si vous voulez, résumer, si vous voulez.
Mais Nicolas, quel âge avez-vous ? Vous avez une voix toute jeune.
J'ai 43 ans.
Ah, vous avez une voix de gamin, c'est marrant quand vous dites, ça fait 15 ans que j'écoute la radio, je me suis dit, mais quel âge a-t-il ?
Ouais, j'ai 43 ans et ça fait 15 ans que j'écoute Europe 1.
Je pensais que vous aviez dans les 25-30 maxi.
Non, bah, c'est très gentil de m'avoir rajeuni un petit peu, ouais, c'est... Voilà. Alors, en fait, moi, je vous explique que c'était par rapport à une addiction que j'ai et que j'ai toujours eue avec différents produits. Mais à chaque fois que je lâche, que j'arrive à me sortir d'une addiction, d'un produit, ben, malheureusement, je remplace par quelque chose d'autre. Et puis, c'est une histoire sans fin, un petit peu.
Alors, est-ce qu'on peut être un peu plus clair quand on parle de produits ? Vous avez commencé à quel âge, avec quoi ?
Alors moi j'ai commencé à fumer on peut appeler ça du shit, hein, la résine de cannabis à partir de mes 17 ans, comme beaucoup sûrement au collège et au lycée, comme ça se fait actuellement, c'est lors de ces moments-là qu'on commence généralement à avoir des conduites à risque avec les produits.
Pour faire comme les copains, pour provoquer un peu, pour être, c'est ça l'idée ?
Pour Noël, par curiosité, pour essayer aussi, parce que je voulais aussi faire un petit peu le bad boy, hein, quand j'étais ado. C'était la curiosité, je voulais essayer. Il y avait l'alcool et puis le cannabis, et puis je connaissais l'alcool un petit peu, donc j'ai décidé de partir dans le cannabis, hein, fumer un joint, tout ça.
C'est allé jusqu'à combien de joints quand même ?
Je fumais, je fumais pas des joints, je prenais carrément des bangs, je sais pas si vous voyez.
Je suis pas une grande spécialiste, hein, pour être.
En fait, c'est comme une pipe avec de l'eau pour faire refroidir la fumée et pour consommer plus de cannabis. C'est une quasiment pure et c'est un gros flash d'un coup. Tandis que ça monte progressivement. Et à cette époque-là, on vous laisse défoncer comme les jeunes font avec le beach drinking maintenant. On vous laisse vite une défonce.
Donc déjà, vous vouliez aller plus loin, quoi.
Et j'ai commencé directement par ça, en fait. On était beaucoup dans la classe à fumer. Et ça est parti très vite, dès le matin, avant d'aller en cours, et puis aux intercours, et puis à la sortie des cours.
Les profs s'en rendaient pas compte?
Non, les profs s'en rendaient pas compte. Ils avaient sans doute plus de choses à gérer,
Ils voulaient
d'autres
pas s'en
choses
rendre
à
compte, ouais, c'est ça.
Ils voulaient peut-être pas s'en rendre compte aussi. Mais bon, le trafic n'était pas.
Discret.
Il suspectait, bien sûr, suspectait, pardon, bien sûr, la consommation dans tout le collège, et c'était monnaie courante, de toute façon, dans les lycées. Donc, il laissait un petit peu traîner les affaires tant qu'il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai continué à fumer des bangs, hein, comme on appelait ça. Et ensuite, je suis sorti du système scolaire, et à ce moment-là, j'ai perdu tous mes contacts du lycée, et ce qui me permis de me retrouver sans produit.
Attendez,
J'ai
juste,
perdu.
pardon, une question. Vous me dites, je suis sortie du système scolaire. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet?
Non, 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 mais moi j'ai fini mes études au niveau du bac.
Ah.
Donc j'ai quitté toutes mes connaissances que j'avais en cours, quoi.
D'accord.
Et aussi, comme ceux qui m'en vendaient de ce produit-là, ils faisaient partie de mes camarades de classe, donc j'ai perdu tout contact du jour au lendemain où je suis parti de l'école. Je suis rentré dans la vie active quasiment tout de suite, mais j'ai senti des manques
Ben oui, c'est ce que j'allais vous dire,
physiques,
c'est pas si facile que
physiques.
ça d'arrêter comme ça.
J'ai senti des manques physiques, mais surtout psychologiques,
Mmh.
et ça m'empêchait de dormir le soir. J'ai fait des nuits blanches pendant longtemps sans cannabis, parce que c'est aussi des effets secondaires. C'est quand on arrête, on ne dort plus. On devient insomniaque. Par contre, après, il se trouve qu'on se rappelle de ses rêves, c'est quelque chose de formidable. Quand on arrête de fumer, on retrouve les rêves d'autrefois qu'on avait, les rêves. Pas des cauchemars, hein, des rêves que tout le monde fait, mais c'est quelque chose qu'on a oublié pendant qu'on consommait du cannabis. Et très vite, avec ce manque de cannabis, eh ben, je me suis réfugié dans l'alcool, parce que c'était le seul moyen à proximité pour pouvoir en fait, continuer plus ou moins la défense. Et puis, ça me permettait aussi de dormir. J'étais soulagé de pouvoir redormir. Alors, j'ai bu de l'alcool pendant 20 ans. Ça a duré pendant 20 ans, jusqu'à mes 35 ans environ.
Quelle
J'ai
quantité
bu.
quotidienne?
Alors, j'ai commencé par de la bière, hein, la bière tout à fait normale, de la bière pression dans les bars. Et c'est monté progressivement du rosé, pas de vin rouge, parce que j'aime pas le vin rouge, du rosé, tout ce qui était un peu sucré, hein, qui se vend bien maintenant dans les rayons. Jeunes, les boissons qui étaient fortes, des alcools forts avec mélangés avec qui font maintenant les jeunes, un peu Red Bull
Des
et
trucs
tout.
énergisants, oui, c'est ça.
Voilà, je suis désolé de sortir des marques.
Non, on va éviter.
Et puis, sûrement, j'ai fait une cure par rapport à mon travail, parce que ça devenait plus possible au travail. Je n'arrivais plus à me lever
Vous
le
faisiez
matin
quoi comme
pour aller.
travail?
Je travaille à l'hôpital, hein. Je travaille dans un service de convalescence, dans un hôpital public. Je travaille donc dans la fonction publique, et je suis agent de service, donc je suis pas complètement dans les soins. Et donc j'ai fait une cure pas très loin de chez moi, qui a duré un an, et j'ai replongé tout de suite après, parce que j'ai retrouvé mon environnement. L'environnement où j'habite, je suis célibataire, je peux pas préciser. Et j'ai retrouvé tout de suite mon environnement, et j'ai replongé tout de suite de plus belle.
Mais pendant ces 1 an, j'imagine qu'il y a eu un travail psychologique qui a été fait quand même.
Pendant ces 1 an
De cure.
de cure, non, ça a duré un mois, la cure. Hein. Les cures, ça dure
Ah
un
pardon,
mois.
j'ai compris, 1 an.
Ah, j'ai peut-être dit 1 an, je m'excuse. Non, ça dure 1 mois. Ça dure 1 mois où on est coupé de tout, de tous la famille, les amis,
Mais
vraiment
un mois,
oublié.
c'est pas très long quand il y a
Non,
autant de passifs,
c'est pas
quoi.
très long, c'est pas très long, mais j'avais pas un alcool, si vous voulez, quotidien. Moi, c'était quand j'étais en vacances, ben je passais mes journées à ça, quoi. Je buvais, en fait, c'était l'alcoolisme morbide hein, que j'avais, parce que je buvais jusqu'à m'en faire vomir. D'ailleurs, tellement c'était morbide, j'avais déjà préparé le sac à côté de moi au cas où, si j'avais envie de vomir, j'étais tellement dépendant et j'avais envie de me foutre en l'air, plus ou moins. Quoi.
C'est pour ça que je vous parle d'un travail psy, parce qu'on comprend bien que chez vous, il n'y a pas que l'alcool. Avant l'alcool, il y avait déjà la drogue.
Il y avait le cannabis avant.
Il y a un problème d'addiction et donc il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là pour arriver à en sortir, non ?
Ouais, et donc au bout d'une vingtaine d'années d'alcoolisme assez dur, j'ai été me faire suivre par un psychiatre qui m'a donné un traitement des anxiolytiques et puis un traitement de fond
pour la dépression, pour l'alcool.
Pour la dépression.
Antidépresseur.
Pour la dépression, ouais. Ouais, antidépresseur.
D'accord.
J'avais tendance à partir en dépression quand j'avais plus d'alcool. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai pris de bonnes résolutions avec ce psychiatre et j'ai passé 4 années, 5 années formidables sans rien. J'ai arrêté complètement donc l'alcool. Sachant que moi l'alcool hein, j'en buvais pas à table, c'était vraiment solitaire chez moi, je m'enfermais pendant des fois une semaine, 15 jours où je buvais et je m'enfermais et je voulais voir personne et ça a duré 20 ans comme ça et du jour au lendemain alors c'est pas la cure qui m'a réussi. C'est en fait c'est l'arrivée de mon neveu qui est arrivé au monde cette année-là et je voulais symboliquement ne pas lui laisser une image d'un tonton alcoolique et j'ai arrêté du jour au lendemain et sans difficulté à ce qu'on pourrait le croire. En fait on dit toujours c'est dur d'arrêter les produits, d'arrêter l'alcool et certains s'en font tellement une montagne que n'ont même pas le courage d'essayer en fait. Et j'ai trouvé une activité qui m'a beaucoup servi, c'est le coloriage pour adultes.
Ah, ce qu'on appelle les comment ça s'appelle ça ?
Il y a des mandalas.
Les mandalas,
ouais,
voilà, c'est ça.
C'est des coloriages très minutieux. Alors, il y en a pour tous les âges, hein. Mais c'est surtout pour adultes. C'est des coloris, des motifs assez, assez complexes, assez sérieux, et qui demandent beaucoup de minutie.
De concentration.
De concentration, et à ce moment-là...
Ça calme un peu,
On oublie tout, en fait. Moi, j'oubliais tout, tous les problèmes du quotidien, même si j'en avais pas tant que ça, hein, des problèmes, mais ça me permettait de m'évader. Et quand on est concentré à faire des petites choses minutieuses, on est absorbé par, par ça. Et je conseille à tous ceux qui ont envie d'essayer ou qui ont fait des tentatives d'essayer le coloriage pour adultes. C'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est super.
C'est un bon conseil, effectivement. C'est tout simple, mais ça canalise le cerveau, l'agitation, les cogitations, tout ça. Et ça peut... Il y a des gens chez qui ça marche très bien, effectivement.
Ouais. Eh bien, chez moi, ça a marché très bien. Mmh. Et donc j'ai tout arrêté, là, cannabis, alcool, ça a duré 5-6 ans. Et j'avais des grands projets de partir faire un road trip aux États-Unis avec un copain. Et je l'ai fait ce road trip juste avant le confinement. J'ai eu la chance de pouvoir y aller avant le confinement. Et je trouve qu'aux États-Unis, là-bas, le cannabis est en vente légale. Alors, avec un copain qui boit de l'alcool là-bas, à Las Vegas et tout ça, et moi qui étais abstinent de tout, et ben j'ai un petit peu replongé dans le cannabis, puisque voilà, on pouvait en trouver dans les magasins là-bas.
Un petit peu replongé, qu'est-ce que vous entendez par là ?
Bah, pendant mes 15 jours de vacances aux États-Unis, j'ai fumé matin, midi et soir.
Oui, c'est ça. Donc, on ne plonge pas un petit peu dans ces cas-là, on plonge complètement.
Bah, j'ai profité de l'occasion parce que j'étais en vacances et puisque je savais que ce que je fumais, c'était du bon. Hein. C'était pas ce qu'on trouve maintenant dans la résine de cannabis que les jeunes fument maintenant. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. à mon avis, c'est très nocif. Hein. C'est mélangé apparemment avec des pneus de voiture, on ne sait pas trop, du caoutchouc. C'est vraiment. Je conseille à personne de commenter fumer du cannabis. Et je continue un petit peu mon histoire. Et donc, en revenant de ce voyage aux États-Unis, je me suis retrouvé avec mon climat breton, la pluie. C'était un mois d'octobre, je me rappelle. Le temps était vraiment exécrable. Et ben, j'étais un petit peu en manque du beau temps, des paysages. Et puis, j'ai fait un bad trip en revenant. En Bretagne, et j'ai voulu chercher à nouveau du cannabis dans les. Parmi. En marchant, mon petit tour, il y avait des têtes un petit peu.
Vous connaissiez les coins, évidemment.
Je connaissais quelques points. Alors, moi, je traîne pas du tout dans le milieu, hein, dans le milieu la drogue. C'est pas du tout mes relations. Hein. Au contraire, moi, j'ai une vie bien rangée. Je travaille dans la fonction publique. J'ai fait un petit peu de sport. Je me suis acheté un VTT électrique récemment, qui m'aide beaucoup aussi. Et donc, du coup, en rentrant, j'ai essayé d'en trouver. Et puis, tout ce qu'on m'a proposé, parce que maintenant, c'est aussi facile de s'en procurer que le cannabis, je suis tombé sur l'héroïne.
Ah.
Ouais.
Et là, on change de dimension quand même.
Je change de dimension, mais voilà, par curiosité, parce que j'étais bête, j'ai voulu essayer, j'ai voulu tester. Et je vous cache pas que j'étais très déçu en fait des essais de l'héroïne, car je pensais que c'était quelque chose de très puissant, et en fait ça l'était pas du tout. C'est quelque chose que j'ai trouvé même moins puissant qu'un verre d'alcool. Pour moi, j'ai trouvé mon compte, parce qu'en fait ça me donnait du boost pour aller, parce que j'en ai pris quand même pour aller travailler, ça se voyait pas. Personne n'aurait pu imaginer que j'avais pris ces substances-là.
Mais vous aviez de l'argent pour dépenser tout ça à chaque fois ?
Et oui, justement, ouais, j'ai touché un héritage il y a quelques années de mon père qui est décédé. Et c'est vrai que j'avais à ce moment-là l'argent pour ça, quoi. Malheureusement, ça ne serait peut-être pas passé si je n'avais pas le compte en banque. Parce que je me suis rendu compte que ça coûtait quand même très très cher.
Mais évidemment.
Si on ne fait pas partie du milieu, si on n'est pas le dealer et qu'on n'a pas sa consommation grâce au deal, je vous dis pas que quand on est juste consommateur et qu'on ne fait pas partie du milieu, ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Et donc voilà, là j'ai commencé le week-end avec l'héroïne. Et vu que ça ne se remarquait pas, que personne ne le voyait, ben j'ai commencé à en prendre le matin avant d'aller au travail, parce que je trouvais que le travail, c'était moins pénible. Mais tout en étant maître de moi-même, en ne me sentant pas dans un état second.
Mais vous êtes sûr de ça? Parce que peut-être vous dites que les autres ne le voyaient pas, mais en réalité, peut-être qu'ils le voyaient très très bien.
Non. Personne ne l'a remarqué, même pas ma mère qui me connaît par cœur. Personne ne l'a soupçonné. Non. Et je n'osais pas en parler à ma psychiatre, parce que ça a commencé il y a un an et demi, ma consommation, et ça fait 6 ans que je consulte ma psychiatre, et je lui en ai pas parlé parce que j'avais peur de la décevoir.
Bah oui, mais alors peur. C'est bien dommage, s'il y a une personne au monde à qui vous pourriez vous confier, c'est bien elle.
Bah oui, mais comme elle m'avait fait confiance, parce que j'ai toujours été transparent sur mes problèmes d'addiction, j'avais peur j'avais peur de la trahir en fait. Parce qu'on a mis un traitement en place à long terme pour la dépression. Parce que comme j'avais arrêté l'alcool, j'avais arrêté le cannabis, là, je m'étais plongé dans mon travail et j'ai fait aussi un burn-out au travail. Alors j'ai une tendance fâcheuse à aller à fond dans
ce que je fais. Il n'y a pas de limite, j'ai l'impression, chez vous.
Il n'y a pas de limite, non. Mmh. Et puis la figure paternelle n'a pas été là non plus. Mon père est décédé d'un cancer de la gorge dû aussi à l'alcool et au tabac. Donc... ça m'a pas freiné plus que ça, mais c'est vrai qu'on a le même parcours. Et puis lui, dès qu'il a plongé dans l'alcool, il a laissé tomber un peu la famille, et puis il s'est laissé mourir.
Et vous avez quel âge quand ça a commencé?
Quand ça a commencé,
Avec
de quoi pour mes parents?
Pour votre père?
Ben, mon père, je m'en suis jamais aperçu de sa consommation d'alcool. Quand j'étais adolescent, pardon, ma mère me disait de transmettre des messages à mon père, lui disant, ouais, mais ce serait bien que tu arrêtes de boire. C'est moi le messager, en fait. J'étais chargé de passer le message à mon père, mais c'était comme si je parlais à un mur. Hein. Mon père était dans le déni complet.
Et puis, c'était pas votre rôle, surtout.
Et c'était pas mon rôle, non, mais comme on avait plus été dans le déni, on cherchait des façons de le dire, mais il voulait rien entendre. Il en est mort il y a 3 ans, mon père. Et là, je suis toujours dans ma consommation d'héroïne, que je suis à 1 demi-gramme par jour. J'ai commencé, j'étais bien à 3-4 grammes, parce que j'ai l'impression que ça ne me faisait rien. Donc j'en prenais, et il se trouve que j'ai commencé il y a quelques semaines, voire un ou 2 mois, à avoir des problèmes sanitaires. J'ai commencé à avoir des suées nocturnes, mais j'étais en nage dans mon lit. Le matin, j'avais des diarrhées qui n'en finissaient plus. J'étais très fatigué au travail. Et puis c'est là, j'ai mis très longtemps à faire un lien entre ma consommation d'héroïne et puis les effets.
Vous étiez dans le déni.
Ben oui, un petit peu, parce que je m'étais dit, ben, j'ai mangé quelque chose de pas bien hier soir.
Oui, c'est pas tous les jours quand même.
Non, mais c'était une fois par semaine. C'était quand j'en avais plus, en fait, le lendemain, j'avais les symptômes de la grippe, quoi. C'était pas les symptômes grippales. Et c'est là que j'ai commencé à faire un lien, et puis, tout de suite, ça m'a fait peur, en fait. Parce que là, j'ai commencé à avoir peur de si j'en prends pas le matin pour aller au boulot, d'avoir des effets secondaires au boulot, et que là, ça se voit.
Ouais, c'est le cercle vicieux. Si j'en prends, ça va pas. Si j'en prends pas, ça va pas non plus.
Voilà, c'est exactement ça, en fait. Ouais. C'est un truc qui tourne en rond, et puis il fallait que je casse le système au plus vite, hein. Sinon, ça allait s'empirer, ma consommation allait s'empirer, et je sais très bien que j'aurais eu de plus en plus de mal à arrêter. Et sur le conseil de ma psychiatre que j'ai appelée la semaine dernière, elle m'a dit d'appeler directement, parce qu'elle s'occupe, elle est médecin aussi, hein, mais elle voulait pas s'occuper des addictions. Elle a préféré que j'aille au CLAPA, à l'hôpital, au CLAPA, hein, c'est le centre de soins pour les addictions en tout genre.
Attendez, ça veut dire que cette fois, vous lui avez dit la vérité?
Je lui ai dit la vérité, ouais, parce que, ouais, je lui dois quand même c'est grâce à elle que j'ai arrêté l'alcool, je lui fais confiance, elle me fait confiance.
Puis elle est là pour ça, c'est vraiment dommage de pas lui dire.
Évidemment. Et elle est là pour ça, elle s'y connaît aussi en addiction,
ouais.
C'est une ancienne addictologue, et je lui ai craché le morceau, et puis ça s'est très bien passé,
non,
hein.
Oui.
Elle m'a envoyé vers le CLAPA, j'ai pris rendez-vous cette semaine pour le CLAPA, j'ai rendez-vous mercredi pour discuter de ce qu'on va faire. J'ai peur, je suis en vacances dans 15 jours, alors je voulais commencer mon sevrage le 25 juin, parce que je ne travaille pas pendant 3 semaines, je préférais faire ça pendant une période où je ne travaille pas, parce que j'ai peur
des effets secondaires. Ouais.
Des effets secondaires.
Ça veut dire que pour l'instant, vous continuez?
Pour l'instant, je continue, ouais. Je continue. Ouais. Et c'est très vicieux comme consommation, parce que j'ai l'impression que ça me fait plus rien, quoi. Ça me donne un coup de boost pour aller au boulot. Et comme je vous le disais, j'ai l'impression que au boulot, je fais du nettoyage dans les hôpitaux. Et enfin, j'ai l'impression que, ben, du coup, là, c'est moins une corvée, que ça me donne un coup de boost, et puis que le quotidien est un peu plus facile à assumer, à traiter au jour le jour. Mais quand je consomme, j'ai l'impression d'être dans un... Il y a un minuteur, en fait, je vois mon produit qui descend au fur et à mesure. Et je me demande comment je vais faire après. Est-ce que je vais réussir à en trouver? Je commence à stresser. Alors j'ai hâte de ce premier rendez-vous, et j'hésite très fortement à ce qu'on m'hospitalise. Moi, je suis toute l'année à l'hôpital à travailler, et puis avec les périodes de Covid, j'ai pas envie d'être enfermé non plus, plus avoir de visite.
Je comprends, mais si c'est un mal pour un bien, il faudra peut-être accepter de passer par là.
Ben oui, je vais peut-être accepter. Alors j'ai des animaux à la maison, j'ai personne pour les garder. Il va falloir que je trouve une solution. Mais c'est
Essayez de
vrai
voir avec les
que
voisins, avec les gens du quartier, mettez des petites annonces, ça marche bien ça.
bon. Ouais, je vais essayer. Mais là, j'entends tellement, c'est vrai. Mais avant d'en prendre, j'étais bête aussi parce que on m'avait prévenu hein, que ça pouvait rendre malade et tout. Et puis c'est bon, on est en 2021, je pense que la prévention contre les drogues. Donc quand même, les répercussions, on fait un peu de publicité pour ça.
Oui, je pense que vous le saviez parfaitement, vous ne pouviez jamais
Je suis
douter.
parfaitement,
Bah
moi j'ai
évidemment.
43 ans, je pense que je suis pas dans, j'ai jamais été dans le déni, hein, que ce soit dans tous les produits que j'ai traversés, mais c'est vrai que j'ai une fâcheuse tendance à une fois que j'ai arrêté un produit, peut-être pas tout de suite, hein, mais j'ai besoin de quelque chose et c'est un peu récréatif, quoi, finalement.
Alors, j'ai deux questions. Là, vous êtes à combien de grammes par jour en ce moment?
Là, je suis à 1 demi-gramme par jour.
Ah, vous avez quand même baissé. À l'époque, vous me disiez, j'en étais à
J'ai quand
3
même baissé,
grammes.
ouais, parce que au début, ça me faisait rien. J'en prenais beaucoup, beaucoup, et je comprenais pas ceux qui en prenaient, quoi, qui étaient accros à ça, qui sont tournés maintenant à la méthadone. Ça, j'ai pas envie d'en prendre non plus, parce qu'apparemment, c'est pas terrible pour se faire sevrer non plus de la méthadone une fois qu'on est parti dedans. Et j'aurais voulu juste être aidé par mon sevrage, hein, sachant que je vais mettre en place tout un planning très chargé, enfin, peut-être pas dans les premiers jours, mais bon, comme je vous disais, j'ai acheté un vélo électrique, donc j'espère pouvoir faire des activités, il va faire beau. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu peur d'être hospitalisé, j'aime pas spécialement de me retrouver avec des schizophrènes, des personnes qui n'ont pas les mêmes
Qui ont d'autres
qui
soucis,
ont
ouais.
ouais j'ai pas spécialement envie de me retrouver j'ai
Alors,
fait plusieurs sevrages d'alcool et ça s'est pas très bien passé
mais c'est un peu le prix à payer aussi, vous le savez très bien. Mais la question que je me pose, Nicolas, c'est que vous avez fait plusieurs années avec un suivi psychiatrique.
oui.
Alors j'entends bien qu'elle s'est occupée du côté médicament, mais est-ce qu'il y a une thérapie qui a été faite? Est-ce que vous avez cherché, qu'est-ce que vous cherchez à compenser avec ces addictions permanentes?
Et ben, c'est peut-être un manque de confiance en moi, et puis l'ennui aussi. Faut pas se le cacher, hein. C'est que ben, certains moments, c'était plus ben, comme les jeunes font le samedi soir, hein, quand ils savent pas quoi faire. Pardon, quand ils savent pas quoi faire, ben, ils s'alcoolisent parce que c'est pour eux une activité comme une autre.
Ah, vous avez le hockey maintenant?
Oui, j'ai excusez-moi.
C'est pas grave, ça arrive. Ouais, mais je pense qu'il serait quand même intéressant. Je veux bien qu'en surface, vous me disiez, voilà, c'est pour m'occuper, mais je n'y crois pas beaucoup en réalité.
Ah, c'est pour que la journée se passe au boulot
Ça,
ça soit moins pénible, c'est moins pénible.
c'est ce que j'appelle la vitrine, Nicolas. Je pense qu'il y a quand même autre chose en dessous. Hein. Parce que si tous les gens qui s'ennuient au boulot se mettent à prendre de l'héroïne,
Pas qu'au
ça
boulot,
va
hein,
devenir
c'est à la maison
compliqué.
aussi. Hein. Ben oui, je comprends bien, mais qu'il pourrait se cacher derrière, c'est vrai que j'ai jamais parlé à un psychologue de ça. Donc c'est peut-être ça qu'il faudrait aussi parler avec un psychologue. Et revoir. Parce que moi, il se trouve que j'ai un frère qui est un peu plus vieux que moi et lui, il n'a jamais rien touché de tout ça.
Alors
Lui, il est
c'est
contre.
amusant que vous me disiez ça parce que je pensais justement à une histoire que je raconte souvent aux gens avec qui on parle de ce sujet-là, des deux petits garçons qui ont un papa qui buvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le premier petit garçon a bu toute sa vie en disant bah, c'est pas de ma faute, j'ai été éduqué avec un père qui buvait. Et le deuxième n'a jamais
Ouais.
touché une goutte d'alcool en disant bah, oui, mais justement, j'ai été éduqué avec un père qui buvait.
Ouais, bah ouais, dans
Eh
les
ouais.
deux sens, ça marche. Hein. Et moi, dans mon cas, c'était le père qui buvait, et puis qui m'a donné peut-être, qui m'a donné l'image qu'il ne fallait pas avoir, mais que j'ai reproduit inconsciemment, en fait.
Il y a aussi ce qu'on appelle quelquefois une fidélité inconsciente à quelqu'un qu'on a perdu.
Ouais, mais non, il se trouve qu'en fait, comme mon père a eu le diagnostic de son cancer de la gorge et son cancer des os, moi, de mon côté, il a arrêté, enfin, lui, il a arrêté de boire à ce moment-là. C'était un peu trop tard, hein,
Eh oui.
et moi, de mon côté, sans connaître même ce qu'il avait arrêté de boire, j'ai arrêté aussi de mon côté, alors comme si on était en fusion tous les deux, dans le même état d'esprit, mais à éloigné bien sûr dans l'espace, et on a eu le même déclic à ce moment-là. J'ai arrêté quand lui a arrêté.
Et c'est justement cet angle-là que j'essaie d'éclairer pour vous, Nicolas. Cette fusion-là, il faudrait peut-être travailler à l'arrêter. Il y a peut-être des liens symboliques à couper, là. Hein. Ce serait intéressant...
Par rapport à mon père.
Ouais, ouais. Ce serait intéressant que vous alliez en parler, vraiment. Parce que vous soigner, prendre des médicaments, c'est très important, mais pas que.
Ouais, il faudrait que je parle peut-être à un psychologue. Ou est-ce que vous avez d'autres conseils à me donner, psychothérapie ou...
Je pense que ça vous ferait beaucoup de bien de faire une psychothérapie, oui. Ouais.
Ne serait-ce que d'en parler, ouais, parce que là, avec ma consommation, autant j'étais pas du tout dans le déni de ma consommation d'alcool, mais il me semblait plus facile d'en parler que maintenant l'héroïne. Là, je suis tout seul et je le cache à tout le monde, mais personne de chez personne n'est au courant de ma consommation.
Mais parler des drogues que vous prenez, c'est une chose. Parler avec une professionnelle ou un professionnel de l'origine de ce problème, c'en est une autre. Et je pense que pour vous libérer, même si vous me dites, voilà, ce que je crains, si vous me dites, voilà, je vais faire un mois de cure à nouveau, les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous pourriez en sortant recommencer et recommencer encore et encore le même schéma.
Ouais.
Si vous n'allez pas un peu chercher à l'origine de ce que vous essayez de combler avec cette drogue, ça va être plus long, plus difficile.
Ouais, c'est un rituel qui s'est mis en place et qu'il faut que je casse. C'est sûr.
Mais je pense qu'il vous faut de l'aide pour ça, vraiment.
Et vous me conseillez un psychologue en plus de la psychiatre.
J'ai l'impression que vous n'avez pas entamé de thérapie avec cette psychiatre.
Non, pas du tout.
Et voilà, c'est ça. Donc c'est très bien sur le plan médical d'être suivi par une psychiatre parce qu'elle gère le traitement médicamenteux, et vous avez confiance en elle et c'est parfait. Mais une thérapie serait quand même vraiment intéressante dans un cas comme ça. Que votre bouche serve à parler et pas à ingurgiter de la drogue.
Oui. Bien sûr. Et c'est les psychologues qui font les psychothérapies, c'est ça, non ?
Bien sûr.
Peut-être que je peux en faire une avec mon psychiatre, je ne sais pas.
Il y a des psychiatres qui le font, des psychothérapeutes, des psychologues. Après, ça dépend un peu de ce qu'il y a autour de vous. Hein. Et puis, il me semble important que vous trouviez quelqu'un avec qui il y ait vraiment une bonne confiance. Parce que quand je vous entends dire que vous n'avez pas osé lui parler... Je me méfie un petit peu. Ça serait bien que vous soyez vraiment en confiance au point de tout dire tout le temps à votre thérapeute.
Mais j'en ai déballé des trucs à ma psychiatre. Hein, mais c'est vrai que... Et puis, ça me pose... C'est pas cette période de 1 an et demi où je prends de l'héroïne. Là. Je pensais ne pas avoir de problème avec. C'est vrai que j'en prenais. J'avais pas encore les symptômes de manque qui étaient apparus, qui m'ont fait peur. Et puis, je considérais pas ça comme un problème... Je continue à mener ma vie normale. Et le problème, c'est quand j'ai commencé à continuer à en prendre, pour être normal, quoi. Donc là, je considérais que ouais, voilà, là, il y avait problème, quelque part, alors, d'en prendre pour être normal, quoi.
À propos de problème, moi, ce que j'entends dans votre histoire, c'est qu'il y a tout ce côté addiction, problème physique, compensation, décompensation, etc. Mais vous avez mentionné plusieurs fois le fait qu'il y avait de l'ennui dans votre vie, dans votre travail, peut-être dans votre vie privée aussi. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a des choses à changer.
Parce que si... C'est ce que m'explique ma psychiatre.
Sinon, vous n'aurez pas envie d'arrêter ça si les problèmes à la base sont toujours les mêmes. Si c'est pour retrouver un quotidien qui ne vous convient pas, vous allez continuer dans la fuite. Pour arrêter de fuir, il faut remettre de l'envie dans votre vie. Envie d'aller bosser sur un truc qui vous plaît, envie d'avoir des amis, envie d'avoir une relation amoureuse, envie, je ne sais pas, enfin voilà, des vraies envies.
En plus, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont clean, hein, qui prennent rien, qui boivent même pas d'alcool. Donc ça, c'est une chance que j'ai aussi de pas traîner dans le milieu de toxico. Moi, je suis très bien entouré. C'est ça qui m'a fait arrêter l'alcool, d'ailleurs. Mon entourage, j'ai un super entourage, une maman géniale qui m'a épaulé pendant ma cure d'alcool. Et c'est le même entourage que j'ai maintenant, mais ça, c'est, je ne vais jamais parler de ce problème d'héroïne à ma mère, ni à mes bons potes, hein, parce que j'ai peur de les décevoir, quoi.
Oui, donc il y a quand même encore une conscience de plein de choses qui est importante chez vous. Et Il faut vraiment que vous trouviez une vraie motivation. Vous m'avez dit tout à l'heure, ma première motivation, ça a été l'arrivée de mon petit-neveu.
Oui.
Et là, la seconde motivation, ça serait bien que ce soit des changements dans votre vie, des changements profonds, qui font que vous avez envie le matin d'aborder la journée sans aucune drogue, sans vous cacher derrière quoi que ce soit de chimique.
C'est ça, ouais. Alors, je peux peut-être faire partie d'associations, je sais pas. Je suis quelqu'un qui manque de confiance en soi, donc j'ai un peu de mal à m'ouvrir.
Là aussi, une thérapie vous fera du bien, parce qu'un bon thérapeute mettra le doigt sur ce qui fait mal pour arriver à vous aider à sortir de tout ça, justement.
Ouais.
Et oui.
C'est le sujet principal quand je vais voir ma psychiatre. Elle me demande alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, l'âme sœur ? C'est peut-être ça qui me manque aussi. Ça fait très longtemps que je suis célibataire. Et ben, ma copine, c'est un peu le produit, en fait. C'est
ouais. Pour ça, hein. Mais alors attention, Nicolas, de ne pas chercher la solution chez les autres.
Non.
C'est pas une bonne idée.
Non.
C'est pas quelqu'un d'autre qui va vous soigner, c'est vous-même.
J'ai confiance en moi, hein. J'ai réussi à arrêter tous les produits jusqu'à présent. Là, je me suis dit, mis une date le 25 juin, parce que je suis en vacances. Et là, je suis déterminé, le 25 juin, j'arrête. J'espère qu'on va me donner quelque chose, même si je ne mise pas tout sur les médicaments. Il est vrai que.
Voilà, merci. C'est ce que je voulais vous entendre dire.
Ouais, parce que je vais mettre en place un planning qui va m'occuper, mais je vais le faire vraiment par écrit, hein. Je vais marquer telle heure, tel jour.
C'est une excellente idée, exactement. Et intégrer dans ce planning, dans cet agenda, des choses qui vous font vraiment plaisir. Des petites choses, il y a mille choses dans une journée qui peuvent nous faire plaisir.
Mais surtout qu'il va faire beau, donc j'essaie de mettre tous les chances de mon côté. Là.
Exactement.
Ouais.
Et en travaillant sur tous ces plans-là, je suis persuadée que vous allez y arriver.
Je vais voir si je trouve pas une psychologue et faire une psychothérapie. Peut-être que ça va m'aider à comprendre l'origine de tout ça.
Et j'aimerais bien que dans quelques temps, vous me rappeliez pour me raconter la suite.
Avec plaisir, Sabine.
Et me dire à quel point ça va mieux et que vous en êtes sortie.
C'est gentil. Je le ferai avec plaisir.
Vous avez le courage et la volonté pour ça. Je suis sûre que vous allez y arriver, Nicolas.
J'espère. Et oui, j'en suis sûre même.
Bon, alors j'attends votre prochain coup de fil avec impatience.
Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous, Nicolas.
Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre émission et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Laissez votre message à Sabine Marin au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Et il me reste le temps d'accueillir Alain. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, vous avez l'air surpris.
Oui, parce que je vous écoutais à la radio et comme je vous ai dit avec quelqu'un, j'étais surpris de prendre la suite.
C'est la même dans le téléphone. Là.
Bon, mais très bien, parfait.
Ça vous va aussi ?
C'est ce que j'attendais, ça me va très bien, oui.
Bon, ça m'arrange.
Ça nous arrange tous les deux, alors c'est merveilleux. Oui, je vous ai appelé parce que je vous raconte un peu mon histoire sommairement, disons. Mm-hmm. J'ai rencontré il y a environ 3 ans une femme qui est vraiment, pour moi, la femme idéale. On s'entend merveilleusement sur tous les plans, il n'y a aucun problème. Sauf que régulièrement, elle me quitte parce qu'elle a un problème pour se projeter dans l'avenir. Elle manque de confiance dans l'avenir. Mmh. Au début, j'ai cru que c'était un manque de confiance en moi. En fait, je crois que c'est plutôt un manque de confiance en elle parce qu'elle a eu... En fait, cette personne a une boule d'émotion. Hein. Elle est très sensible et elle a fréquenté pendant une quinzaine d'années un homme... Il y a environ 5 ans, ça s'est arrêté brutalement parce qu'un jour, elle l'a retrouvé. Le soir, elle l'a retrouvé pendu.
Ouf.
Oui.
Effectivement, c'est très brutal.
Exactement. Et donc, je pense que c'est de là que ça vient. Elle n'arrive pas à avoir confiance dans une relation durable. Donc, depuis 3 ans que l'on se fréquente... Quand on est ensemble, tout est merveilleux. Et j'ai l'impression que justement, quand ça atteint des sommets de bonheur, c'est là que ça l'a fait rebasculer dans sa crainte que ça ne dure pas. Et alors à chaque fois, elle se sauve et puis on reprend 3 mois après et puis ça recommence, ça dure 4 mois et elle repart et ainsi de suite. Et à chaque fois, c'est une souffrance pour les deux.
Bien
parce
sûr.
qu'on a la même attirance tous les deux sur tous les plans voilà. Donc à chaque fois, on souffre terriblement et donc je sais plus comment faire. Elle a commencé par voir un psy qui a essayé de plus ou moins, je crois, une méthode qui incluait comment ça s'appelle
le MDR.
Oui, c'est ça.
Ouais, j'allais vous en parler, mais il faut savoir si c'était bien fait ou pas aussi.
Bah voilà, je ne sais pas. Moi, j'ai pas vu le psy en question, donc je peux pas dire. Bon, ça a duré un certain temps, ça allait mieux. Et puis elle a replongé. Elle en a vu un autre ensuite, qui lui paraissait plutôt plus efficace. Et manque de chance, il a pris sa retraite. Donc depuis, elle n'en a pas repris d'autres. Et c'est vrai qu'elle en a un petit peu assez de raconter à chaque fois son histoire, quoi, de recommencer le même cursus. Et d'autant plus que finalement, elle n'a pas réussi à trouver la solution, quoi.
Dites-moi, entre ce monsieur qui s'est suicidé et vous, il y a eu quelqu'un ou pas ?
Non, non.
Non. Donc vous avez récupéré le package, on va dire.
Oui, j'ai eu le paquet cadeau. Ouais. Oui.
Et avant ce monsieur, est-ce que vous savez quel type de relation elle avait ? Est-ce qu'à chaque fois il y a eu des ruptures ou des choses un peu violentes comme ça ?
Non, elle a divorcé de son mari il y a assez longtemps. Elle a fini d'élever ses deux enfants seule.
Elle a divorcé ou c'est lui qui a souhaité le divorce ? Vous savez ça ?
Je crois qu'elle a divorcé. Je n'ai pas voulu être trop insistant. Mmh. Je pense qu'il la trompait et que ça s'est mal passé.
D'accord.
Donc, parce qu'elle a... C'est une boule d'émotion, mais en même temps, elle a quand même du caractère. Et je pense qu'elle n'a pas supporté. Donc, et donc, elle a élevé ses deux enfants. Elle les a amenés à faire des études assez réussies. Pour tous les deux, sa fille est médecin d'ailleurs. Enfin bref, donc elle est restée longtemps seule. Bon, elle a eu sans doute quelques aventures, hein, bien sûr. Elle me l'a dit sommairement, mais rien de durable, disons. Et quand elle a retrouvé cette personne avec qui elle était, qui lui a caché qu'il l'avait déjà fait plusieurs fois des tentatives de suicide avortées. Il s'est bien gardé de lui dire. Mmh, elle l'a su après par sa famille. Bon, ce gars-là a eu un cancer. Elle s'est occupée de lui. Elle s'est beaucoup occupée de lui jusqu'à la fin. Et à la fin, la sortie de secours qu'il a pris, c'était celle-là. Mmh. Sauf qu'il lui a fait un sacré cadeau en faisant ça.
Alors certes, mais il n'y a pas que ça. Moi, ce que j'entends dans... Comment ça se fait que quand je vous parle, ça crache comme ça le téléphone ? Vous entendez ?
C'est moi qui blésite ? Non.
Je ne sais pas, c'est bizarre.
C'est mon téléphone qui est de mauvaise qualité, peut-être, je ne sais pas.
Ce que j'entends dans votre histoire, et juste de loin, parce que je ne la connais pas et je n'ai pas pu lui parler à elle, mais il y a, me semble-t-il, une grosse blessure d'abandon qui remonte peut-être déjà à l'enfance, peut-être après. Quand on a un mari qui nous trompe, on se sent abandonné. Quand on a un mari qui suicide, un compagnon qui suicide, on se sent aussi à nouveau abandonné. Et il se peut qu'inconsciemment, elle ait l'impression qu'elle ne mérite pas, finalement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que ça devient bien, trop bien... Il y a une partie d'elle qui dit, de toute façon, ça va forcément s'arrêter d'une manière ou d'une autre, donc je préfère, moi, couper court. C'est chanson qui dit « Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve ».
Oui, mais c'est tout à fait le langage qu'elle a, hein. C'est tout à fait ce qu'elle me dit. Hein. Parce qu'en fait, on parle très, très, très librement et très facilement de tout, sans être pour autant intrusif, mais je veux dire, on se dit vraiment tout ce que l'on pense, il n'y a aucune difficulté de communication sur aucun sujet, et c'est ce qu'elle me dit. Elle me quitte de peur que ça ne dure pas.
C'est ça, c'est qu'il y a une grande partie d'elle qui pense qu'elle ne mérite pas.
Alors, il y a aussi autre chose, je pense, parce que, bon, il m'a fallu du temps pour arriver à comprendre tout ça, à détricoter un petit peu son histoire. Parce que ce que je vous dis là, j'ai mis un certain temps à le
J'imagine que ce n'est pas tombé du ciel du jour au lendemain, forcément.
Non. Ouais, mais j'ai cru comprendre également autre chose, c'est qu'elle était dans une famille où elle s'entendait bien avec son père, mais qui est parti assez tôt. Mais, enfin, parti, qui est mort, pas très vieux. Par contre, sa mère, c'était une fratrie de trois filles, et sa mère préférait les deux autres filles à elle.
Oui, donc en plus de l'abandon, il y a le rejet. Donc tout ça explique une base quand même assez instable.
Donc, il y a déjà je pense qu'il y avait certainement déjà quelque chose là qui l'a marqué fortement.
Qui s'est construit à ce moment-là, oui.
Ça, je l'ai appris au long cours, lorsqu'elle me parlait de sa mère de temps en temps, enfin quand je la questionnais vis-à-vis de sa mère, et donc j'ai compris qu'effectivement, sa mère a préféré les deux autres sœurs. Par contre, aujourd'hui, la mère est en maison de retraite, en EHPAD.
Et c'est elle qui s'en occupe.
Et c'est elle qui s'en
occupe. Ça, c'est un grand classique. Elle cherche encore désespérément l'amour de cette mère qu'elle n'a pas eu comme elle aurait voulu.
Exactement. Oui. Donc je pense que là, c'est certainement le point de départ de la fragilité qu'elle... vous ne croyez pas ?
J'en suis persuadée, mais je trouve ça formidable que vous en ayez conscience. Mais est-ce qu'elle l'a compris ?
Elle l'a compris, je pense qu'elle a dû finir par le comprendre, puisque lorsqu'on en a parlé... j'essaye de lui dire les choses doucement, mais elle en a pris conscience, oui, tout à fait.
Quelle chance dans un couple d'avoir un dialogue comme ça, je trouve ça formidable.
Oui, c'est merveilleux, mais je vous dis, c'est la femme idéale, on peut parler de tout, on peut tout est bien. Quand on a été pendant 3 mois confinés, là, parce que normalement, bon, évidemment, on vit chacun chez soi, hein, c'était l'idée de base, mais quand il y a eu le premier confinement, là, elle est venue vivre avec moi et ça s'est passé. Merveilleusement.
Alain, pas eu... pardonnez-moi, j'ai une proposition malhonnête à vous faire.
Oh, wow. Dites-le tout doucement alors.
en tout bien, tout honneur. Non, l'émission se termine et ça me ferait plaisir si vous le souhaitez qu'on continue à discuter tous les deux demain soir si vous êtes dispo. Est-ce que ça vous irait? Parce que là, il va me rester très peu de temps et je pense que notre conversation n'est pas entièrement finie.
C'est vrai, oui.
Donc si vous en êtes d'accord, on vous rappelle en début d'émission demain. Malheureusement, ce sera 23h30 à nouveau.
Oui, pas de problème.
Les trois soirs du week-end, on démarre plus tard. Donc si vous êtes d'accord, je vous retrouve demain soir et on poursuit ensemble notre conversation, d'accord?
Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir.
Plaisir partagé. Passez une bonne nuit, Alain. Je vous dis à demain.
Merci, vous aussi.
Au revoir. Et oui, il est l'heure de refermer la page de cette émission. C'est passé très vite ce soir. Merci à tous d'avoir été là. Je vous retrouve demain soir donc à partir de 23h30 pour de nouvelles confidences. Et je vous quitte avec la phrase du jour. Parfois, vous devez renoncer à certaines personnes, non pas parce qu'elles ne comptent pas pour vous, mais parce que vous ne comptez pas pour elles. Bonne nuit et à demain. 1h du matin sur Europe 1, c'est le début des programmes de la nuit.